Bonjour, bonjour à tous, mardi 10 juillet 2018, je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour passer cette émission avec vous ensemble. Bienvenue dans les voies de service sur Canal M, c'est Louis de Bernis qui vous parle, et je suis accompagné de celui qui a tenu le fort, le phare, pendant mon absence.
Avec brio, c'est beaucoup dire.
Oh
bonjour.
Si, j'ai un peu écouté, si, c'était tout à fait de qualité, je n'en doutais pas, mais je voulais me régaler les oreilles.
C'est gentil, merci, j'apprécie.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Très très bien, il fait beau, tout est super.
Mais oui, la vie est belle.
La vie est belle.
Qu'est-ce que nous avons au menu alors?
Au menu, nous aurons, après le chemin de Compostelle, il y a Compost Hill, les îles de la Madeleine qu'on fait à la marche.
D'accord.
Et puis le syndrome des vacances à crédit, il faut y penser, il faut en parler, parce que quelquefois on en a pour quelques années à s'en remettre. Et un problème existentiel. Où vont le contenu des toilettes lorsqu'on actionne la chasse d'eau en plein vol dans un avion?
Ah oui, ça, un mystère à élucider, ça nous fera le plus grand bien, effectivement. De mon côté, je suis allé chercher, et bien comme à mon habitude, je ne l'ai pas perdu, des sujets insolites, intéressants peut-être parfois, nous verrons, nous parlerons notamment du bruit du robinet, il peut être agaçant,
ah oui.
Et bien il est objet d'étude par des scientifiques, c'est très sérieux. Le ploc-ploc, et il y en a des tonnes différents. Nous parlerons également de ces pétroliers qui gèlent le sol. Ça paraît bizarre dit comme ça, je vous expliquerai, ça se passe en Alaska, je vous expliquerai pourquoi, comment, tout ça. Et nous parlerons également, si nous avons le temps, et je pense que nous aurons le temps, de cette histoire d'un clarinettiste qui a gagné beaucoup d'argent grâce à un procès. Jouer de la clarinette. Ah, dans quelques instants, à tout de suite, dans les voies de service.
Nathalie Morissette des îles de la Madeleine signe cet article « Marcher les îles ». Surnommé « Compost Hill » par bien des Madelinos, les nouveaux sentiers entre vents et marées permettent depuis le début de l'été de faire le tour de l'archipel sur un circuit d'environ 225 km. L'objectif, sortir du chemin tracé par la route 199 qui traverse les îles d'un bout à l'autre. Route secondaire, plage, butte, sentier étroit, voilà ce que fouleront les marcheurs qui s'attaqueront à ce circuit divisé en 13 étapes, dont la plus longue fait 27 km. L'idée de créer un sentier aux îles est née il y a 3 ans après qu'un groupe de 6 Madelinos eut marché dans le chemin de Compostelle. Et si on marchait les îles, se sont-ils dit à leur retour. Le projet a emballé la municipalité, la petite équipe s'est mise à baliser les sentiers au printemps. En juin, on travaillait d'arrache-pied pour que tout soit prêt pour le début de juillet, a pu constater la presse. Le but, c'est d'allonger la saison touristique à partir de mai jusqu'à octobre, explique l'une des instigatrices du projet, Carole Longuépée. Beaucoup de visiteurs débarquent aux îles pendant les mois de juillet et août. Or, les adeptes de la randonnée optent souvent pour l'automne et le printemps lorsque vient le temps d'organiser une expédition. Bien que les sentiers soient balisés, Mme Longuépée et son équipe ont pris soin d'utiliser le plus grand nombre possible de passages déjà existants et d'éviter de masquer le paysage en installant de grands panonceaux. En parcourant l'étape 2, appelée « bout du banc », nous avons pu constater que l'on s'était servi par exemple des grosses pierres déjà sur place pour indiquer, à l'aide de flèches peintes en jaune, la direction à suivre. C'est ainsi que l'on a pu monter dans un sentier discrètement tracé sur la butte des Demoiselles et avoir une vue imprenable sur l'eau et sur la grave promenade historique qui longe le littoral. Pour les marcheurs aguerris, Mme Longuépée calcule que les îles peuvent se parcourir ainsi en 2 semaines, en calculant environ une étape par jour. Certains hôteliers seraient prêts à offrir un service de transport au début et à la fin de la journée de randonnée. Un projet de navette pourrait même voir le jour, mais pour le moment, les gens doivent vraiment organiser eux-mêmes leur circuit, souligne Carole Longuépée. Pour les Madelinos, ça peut être un projet d'été, ajoute-t-elle. Ils peuvent parcourir une étape par fin de semaine. La plupart des sentiers sont de niveau intermédiaire, quelques-uns sont plus difficiles. La marche sur le sable mou des sables contribue à augmenter le degré de difficulté. L'accès au circuit est gratuit. Et puis, il y a deux parcours conseillés, un pour les familles et un pour les marcheurs aguerris, que vous pouvez découvrir dans ce bel article de Nathalie Morissette des îles de la Madeleine.
Ploc, ploc, ploc. À quoi vous fais-je penser si je fais ce bruit? Peut-être au robinet, effectivement, comme on le disait en introduction. L'énigme qui se cache derrière le bruit horripilant du robinet d'eau qui goutte vient d'être dissipée par des chercheurs qui proposent un moyen simple pour y remédier, le liquide vaisselle. Ce n'est pas la goutte d'eau en elle-même qui génère ce bruit agaçant lorsqu'elle tombe à la surface du liquide, mais l'oscillation d'une petite bulle d'air créée lors de l'impact et entraînée sous la surface, soulignent ces chercheurs dans une étude publiée vendredi dans Scientific Reports. En l'absence de bulle, il n'y a pas de bruit, déclare à l'AFP Peter Jordan, chercheur du CNRS à l'Institut Prime, rattaché à l'Université de Poitiers et co-auteur de l'étude. En oscillant, cette bulle d'air fait vibrer la surface de l'eau. Celle-ci agit comme une enceinte acoustique qui génère le bruit que nous connaissons tous. Un ploc-ploc bref, clair et plutôt aigu qui devient vite exaspérant la nuit. L'un des auteurs de l'étude, Anurag Argawal, du département d'ingénierie de l'Université de Cambridge, s'est intéressé au sujet après avoir été gêné par le bruit d'une petite fuite d'eau venant du toit de la maison d'un ami. Alors que je n'arrivais pas à dormir, à cause du bruit de l'eau tombant goutte à goutte dans un seau, j'ai commencé à réfléchir au problème, raconte-t-il. Il en a parlé le lendemain avec cet ami et un autre chercheur. Nous avons été surpris de découvrir que personne n'avait réellement trouvé la cause de ce son, souligne-t-il, cité dans un communiqué de l'Université de Cambridge. Pourtant, le son produit par une goutte d'eau tombant à la surface de l'eau est un objet de curiosité scientifique depuis plus d'un siècle, rappelle l'étude. La mécanique est désormais bien connue. Au moment de l'impact, il se forme une sorte de cavité, puis l'émission d'un petit jet de liquide et la création d'une bulle d'air. Côté bruit, jusqu'à présent, les scientifiques s'étaient surtout intéressés au son que produit la chute de la goutte sous l'eau, plutôt qu'à celui qu'elle génère également dans l'air, relève Peter Jordan. Les chercheurs ont effectué des mesures avec un microphone pour analyser le son se propageant dans l'air et avec un hydrophone pour capter celui se diffusant dans l'eau. Ils ont également réalisé des images à très haute vitesse de la chute de la goutte, obtenant un film au ralenti permettant de voir ce qui se passe précisément au niveau de la surface du liquide. Ensuite, ils ont corrélé ce qu'ils voyaient et la signature acoustique de la goutte, mesurée dans l'eau et dans l'air. En ajoutant ensuite du liquide vaisselle à l'eau, ils ont modifié les propriétés élastiques du liquide. Nous avons constaté que cela empêchait la bulle d'air de se former et que du coup, il n'y avait pas de bruit. Conclusion, un peu de liquide vaisselle dans l'eau peut potentiellement régler le problème. Toutefois, notre étude est valable pour une certaine vitesse d'impact, une certaine taille de goutte d'eau.
Tu cherches toujours ta famille, tu as l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît. Paris c'est trop petit pour toi, tu préfères partir à dos droit, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague incolore. Ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Garde sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seul, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tu as déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie. Choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent, des nuages pris entre les dents. Tu voudrais partir sur la mer, comme les marins de Fassbinder, toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es?
Vous êtes toujours à l'écoute des voix de service sur Canal M, et à l'instant, on vient d'entendre Pierre Lapointe et la pièce « Sais-tu vraiment qui tu es » de son plus récent album qui s'intitule « La science du cœur ».
Merci Jean-Sébastien. Alors, le syndrome des vacances à crédit, signé Stéphanie Gramont dans la presse. Au diable la dépense. Après une année de dur labeur, beaucoup de vacanciers sont prêts à jeter leur budget par-dessus bord afin de prendre le large. Mais... je regrette, les voyages d'agrément, si plaisants soient-ils, ne sont pas une raison valable de s'endetter. Pourtant, deux sondages récents, l'un de l'ordre des CPA, l'autre de CAA Québec, arrivent à la même conclusion. Une personne sur cinq prendra des vacances à crédit cette année. Plus ça va et plus les vacances, c'est sacré. Les consommateurs vont faire ce qu'il faut pour être capables d'en prendre, constate Annie Gauthier, porte-parole de CAA Québec. Après la voiture financée sur 96 mois, les meubles payés en 36 versements égaux, beaucoup de consommateurs ont pris la fâcheuse habitude de mettre leurs vacances sur la marge ou la carte de crédit. Avant, les gens ne pouvaient pas s'imaginer acheter des vacances à crédit. Il y a 10 ans, c'était certain que non. Il y a 5 ans, c'était exceptionnel, se rappelle Ronald P. Gagnon, premier vice-président de la firme de conseil en redressement financier BDO. Aujourd'hui, ils voient souvent des consommateurs qui se sont mis la corde au cou en accumulant des dépenses superflues, notamment des voyages. Des exemples, juste après Noël. Une famille égorgée par ses dettes n'arrive plus à payer ses cartes de crédit. Pas plus tard qu'à l'automne, elle avait pourtant déboursé 8 000 $ pour aller dans les Caraïbes. L'aube de la saison estivale, une autre famille se dit « on est dû pour faire le tour de la Gaspésie ». Sans compter, elle a tout payé avec sa carte de crédit et s'est retrouvée avec 5 000 $ de dette au bout du chemin. Du retour à la réalité. Mais ce n'est parfois que 2 ou 3 ans plus tard que les clients en détresse aboutissent dans le bureau d'un syndic. Avec l'effet boule de neige, ils réalisent que leur fameux voyage leur a coûté une petite fortune avec les intérêts accumulés. Jugez vous-même, la personne qui achète un voyage de 2 000 $ avec sa carte de crédit va payer le gros prix si elle se contente de faire le paiement minimum de 2%. Il lui faudra 36 ans pour se libérer de sa dette qui lui aura coûté 6 200 $ d'intérêt. Et même si elle fait des paiements de 100 $ par mois, le remboursement s'étirera sur 2 ans, 25 mois, et les frais d'intérêt s'élèveront à 424 $, beaucoup d'argent jeté à l'eau pour quelqu'un qui n'avait pas les moyens de voyager. Au lieu de partir en vacances à crédit, d'autres consommateurs font de douloureux sacrifices pour profiter de quelques jours ou semaines de congés. En fait, une personne sur 10 néglige le remboursement de ses dettes et plus du quart des Québécois se privent d'épargner pour aller en vacances. Sur quoi on rogne pour partir en vacances? 26% des Québécois rognent sur mettre de l'argent de côté, 23% sur acheter des meubles, 20% ne se payent pas les sorties culturelles, 18% n'achètent pas un appareil électronique, 15% ne font pas les rénovations, 11% remboursent les dettes, ne remboursent pas leurs dettes en fait, et 8% n'achètent pas une propriété qu'ils auraient dû acheter. Voilà, c'était le syndrome des crédits, des vacances à crédit, pardon.
Et autre situation déconcertante dont je vous parle, il ne s'agit pas des vacances, jugez plutôt. Les pétroliers gèlent le sol réchauffé par l'augmentation des températures. Si l'adjectif ubuesque n'existe pas, il aurait sans doute fallu l'inventer pour cet article et pour cette situation qui se produit en Alaska. Pour accéder au pipeline, les groupes pétroliers placent des milliers de tubes réfrigérants dans le permafrost afin qu'ils soient suffisamment solides pour rouler dessus. Chasser le réchauffement climatique par la porte, il reviendra par la fenêtre. En respectant les strictes consignes environnementales américaines sur la circulation dans la toundra, les groupes pétroliers d'Alaska pensaient pouvoir maintenir le fragile permafrost suffisamment solide pour continuer à accéder aux oléoducs et les entretenir tout au long de la saison hivernale. Mais c'était sans compter sur l'augmentation des températures, en partie due à l'exploitation même de ces hydrocarbures en Alaska. Les routes de glace disparaissent de plus en plus rapidement, réduisant du même coup la période d'exploitation des puits de pétrole. En 2003, la fenêtre de tir avait diminué de 2 mois en moyenne par rapport aux années 70, au moment où les routes de glace étaient praticables plus de la moitié de l'année. Un désastre pour les industriels qui payent régulièrement 300 000 dollars par jour pour maintenir leurs équipes prêtes dans l'attente d'être autorisées à accéder aux champs pétrolifères. Toute une économie s'est alors développée pour maintenir les routes et les installations en l'état. L'entreprise Bedded Stream s'est par exemple spécialisée dans la vente de détecteurs de température aux compagnies pétrolières. L'analyse des résultats des nombreux capteurs dispersés dans le North Slope, le versant nord de l'Alaska, permet aux autorités et aux industriels de savoir exactement quand les conditions climatiques sont réunies pour accéder aux installations et de gagner ainsi un temps précieux. Inventée dans les années 70, une autre technologie s'est largement développée lors des dernières saisons hivernales. L'installation de tubes réfrigérants dans le sol pour garder la couche de permafrost gelée. Pour être honnête, le dérèglement climatique est plutôt bon pour nos affaires, s'est satisfait Ed Yarmak, fondateur d'Arctic Foundations, qui a vendu des milliers de ces tubes métalliques aux compagnies pétrolières installées en Alaska. En partie enterrés dans le sol, ils en expulsent la chaleur afin de lutter contre la fragilisation des routes de glace, des pipelines et des bâtiments. C'est aussi la lutte contre la fonte du permafrost qui permet aux groupes pétroliers de rester dans le cadre imposé par les normes environnementales. Depuis 2003, les déplacements sur la toundra sont autorisés uniquement quand la terre est gelée sur une profondeur de 30 cm et avec au moins 15 cm de neige sur le sol. Auparavant, les autorités attendaient simplement l'annonce d'une température en dessous de zéro pour ouvrir les champs de pétrole à la circulation. Les effets de la mesure ont été immédiats. Les terres dans le nord de l'État sont devenues praticables sur des périodes d'au moins 5 mois pendant 13 années de suite, avant que cette période ne se raccourcisse de nouveau depuis 2015. Le cadre imposé par les autorités a également permis, depuis le début des années 2000, d'observer un rallongement de la période de gel. Un apparent paradoxe pour le journaliste Alex Demarban, qui soulignait en 2016 le lien entre une industrie aux lourdes conséquences environnementales et l'urgence de prendre soin d'un environnement menacé. C'est l'indubitable ironie d'une industrie pétrolière travaillant à étendre la saison hivernale pour exploiter les hydrocarbures qui contribuent à, en plus de réchauffement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre, qui eux-mêmes réduisent cette saison hivernale.
Quatre ans à bord d'un voilier en famille, le voyage d'une vie. C'est un texte d'Alexandre Duval de Radio-Canada avec les informations de Karl Marchand. Jean Legault, Sa conjointe et leurs trois filles partent en voyage ce dimanche. Enfin, ils sont partis hier, avant-hier. Mais les périples de la petite famille de Québec n'a rien de conventionnel. Pendant les 4 prochaines années, elle parcourra la planète à bord d'un voilier. Rencontrée à la marina de Sillery, quelques heures avant le grand départ, Jean Legault affichait un air serein. « Il n'y a pas d'inquiétude à avoir », assure-t-il. « C'est un gros périple, mais on fait de la voile depuis longtemps », explique le père de famille. « J'ai déjà une bonne expérience. » Derrière son calme se cache néanmoins une préparation minutieuse. Bien entendu, il a fallu préparer l'embarcation de 41 pieds, s'équiper de pièces de rechange et réaménager l'espace. « Ça devient notre maison et ce n'est pas très grand pour être 5 dedans, mais bien classé, bien rangé, avec de bons systèmes, on va y arriver. » Il a fallu aussi accepter de quitter le quotidien avec tout ce que ça signifie. C'est de louer la maison, de quitter nos emplois. Après ça, il y a le côté santé, les vaccins et tout ça. Un bon bout que ma conjointe a travaillé, c'est le programme scolaire pour les enfants. Puis, il y a toute la logistique et les précautions. On va avoir 30 jours d'océan à traverser, donc il faut être autonome pour 30 jours. On va se préparer peut-être pour 50 ou 60 jours d'autonomie pour être certain s'il arrive quelque chose sur l'océan. Pour les enfants, Jean Legault a le pied marin depuis l'enfance. Le voyage qu'il s'apprête à faire, il en a vécu une version semblable lorsqu'il était lui-même âgé de 7 à 11 ans et que ses parents l'ont emmené à bord de leur voilier. J'ai tellement eu une belle expérience que je voulais faire revivre ça à mes enfants. La famille amorcera le voyage dans le golfe du Saint-Laurent, puis descendra la côte est américaine jusqu'en Floride et se rendra ensuite aux Bahamas, où elle passera vraisemblablement son premier Noël. Par la suite, la famille passera 6 mois dans les Antilles avant de se rendre au Panama, puis viendra le temps de la grande traversée du Pacifique, une escale est prévue en Polynésie française dans le but d'atteindre l'Australie, où devrait se célébrer le deuxième Noël. La dernière année du périple doit mener la famille en Afrique du Sud, puis lui faire traverser l'Atlantique pour rejoindre le Brésil et ensuite remonter les Amériques jusqu'à la maison. Si tel est le plan, Jean Legault est bel et bien conscient qu'il pourra devoir s'adapter. Ce n'est pas que ça nous fait peur, mais tout est basé sur la météo, les vents, les vagues et tout ça. Par contre, on a du temps, donc si la météo n'est pas bonne, on va tout simplement attendre. C'est les vents qui vont décider un peu où l'on s'en va et les gens qu'on va rencontrer, philosophe-t-il, en souhaitant à bien d'autres familles d'avoir la chance de vivre le même voyage d'une vie.
Et lorsque cette famille passera en Australie, eh bien, il faudra se méfier à ne pas trop mettre ses mains dans l'eau
oui.
Et à ne pas vivre ce qu'a vécu cette femme la semaine passée. Une femme entraînée dans les eaux. Alors, les eaux, moi, je n'y serais pas allé, rien qu'à la description, mais elle, vraisemblablement...
Elle ne voulait pas y aller, je ne crois pas non plus.
Je ne crois pas aussi, mais je ne serais même pas monté sur le bateau, je pense, parce qu'on décrit ces eaux comme des eaux infestées de crocodiles et dans lesquelles il y a également des requins.
Et la taille des crocodiles est impressionnante.
Oui, vous allez voir dans une ou deux phrases, effectivement. Ça se passe dans le nord-ouest de l'Australie et elle a raconté à la presse ce moment terrifiant qui a failli lui coûter un doigt et peut-être même plus, sait-on jamais. Melissa Bruning a expliqué qu'elle avait essayé de donner à manger à 4 requins nourrices fauves qui traînaient derrière le yacht à bord duquel elle se trouvait. L'incident est survenu en mai, alors c'était plus qu'une semaine, en mai dans la baie de Dugong, dans la région reculée de Kimberley, où l'on trouve des requins, mais aussi, et surtout, des crocodiles de mer, qui peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres de long et peser plus d'une tonne. Des beaux bébés. Le requin de 2 mètres de long seulement, me direz-vous, a aspiré son index droit comme si c'était un aspirateur, a déclaré Madame Bruning. Je crois que le requin était autant en état de choc que moi. La seule façon de décrire ça, c'est que la pression était immense et que j'avais l'impression que le requin déchiquetait le doigt jusqu'à l'os. Les requins nourrices fauves ont une mâchoire puissante et plusieurs rangées de dents, comme beaucoup de requins en fait. Je suis remonté à la surface et je me suis dit « j'ai perdu mon doigt est parti ». Sur des images tournées avec un téléphone mobile et assez impressionnantes, on voit Madame Bruning hurler au moment où elle est traînée dans l'eau avant d'être rapidement secourue par l'équipage et ses amis. Elle s'en est sortie heureusement seulement avec une fracture quand même, un ligament déchiqueté et une infection sévère, mais elle a conservé son index. Ce n'était pas du tout la faute du requin. Depuis, a-t-elle ajouté, j'ai appris à respecter les animaux marins, à les regarder avec admiration, mais à les laisser tranquilles. Mmh.
Secret de cockpit, les toilettes de l'air, Stéphanie Morin dans la presse. Des mythes à déboulonner et des questions qui trouvent réponse dans l'univers du voyage et de l'aviation. Où va le contenu des toilettes lorsqu'on actionne la chasse en plein vol ? Aucun liquide n'aboutit dans l'air, contrairement à ce que certains peuvent penser. Tout le contenu des toilettes est envoyé dans un grand réservoir qui est vidé par camion quand l'avion arrive au sol, explique Sylvain Aubin, pilote et vice-président exploitation aérienne chez Air Transat. Ça fonctionne un peu comme un véhicule motorisé qu'il faut vidanger. En revanche, les eaux grises provenant des lavabos, des salles de toilettes, sont jetées hors de l'appareil et vaporisées dans l'air. Essentiellement, il s'agit d'eau et de savon. Les liquides de la cuisine, restes de café, de boissons gazeuses ou de vin, finissent quant à eux dans le vaste réservoir principal. À quelle fréquence se fait la vidange de ce réservoir des eaux noires ? Lors des vols plus courts, vers le sud par exemple, la vidange peut attendre le retour vers Montréal ou Toronto ou Québec. Mais lors des vols plus longs comme vers l'Europe, le réservoir est vidé à l'aller et au retour. C'est un service pour lequel on paye et qui peut être fait dans tous les aéroports où l'on atterrit. Les déchets solides sont traités à part, indique M. Aubin. Ils sont mis dans des sacs poubelles qui sont évacués sur des chariots. Il y a une rotation de chariots. Tout ce qui est sale sort et il y en a des neufs qui rentrent. Un nouveau sentier de pèlerinage, encore un en Estrie, Violaine Balivi. De la presse, les voyages de marche ont la cote et l'offre ne cesse de se diversifier au Québec. Un nouveau parcours vient de voir le jour en Estrie et propose une boucle de 152 km autour de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Inaugurée le 1er juin dernier, le circuit emprunte essentiellement les chemins de campagne et des routes secondaires pour relier un chapelet de village. On suggère 8 jours et 7 nuits en marchant 4 ou 5 heures par jour, mais des boucles de 5 jours sont aussi proposées, note Marie Beaupré, directrice générale d'Action Mumfrey West. L'organisation demande une contribution de $40 aux marcheurs, qui reçoivent en échange une carte détaillée de sentier et un permis de stationnement pour la durée du séjour. Aucun service de navette ou de transport de bagages n'est toutefois prévu pour le moment.
Et ne partez pas tout de suite en pèlerinage, nous revenons juste après la pause dans les voies de service. Vous écoutez les voies de service.
Thank you. envie, ce n'est pas un mythe. Tournons la page, passons à la suite. Où va-t-on trouver un nouveau partenaire? Oh, je ne sais plus quoi faire.
On vient d'entendre Damien Robitaille et la pièce Serpent et Échelle. Damien Robitaille qui sera en spectacle ce vendredi dans son patelin au Festival du Loup dans le petit village de La Fontaine, dans la municipalité de La Fontaine en Ontario.
Et parlons de musique, puisque nous avons plein de belles musiques grâce à Jean-Sébastien Laliberté. Je vous parle d'un clarinettiste. Un clarinettiste qui va se trouver un petit peu plus riche, puisqu'il va toucher 350 000 dollars de la part de son ex, qui a nui à sa carrière. Toronto, une jeune femme ayant empêché celui qui était alors son amoureux de profiter d'une occasion professionnelle exceptionnelle, apparemment parce qu'elle craignait qu'il ne la quitte pour s'installer aux États-Unis, a été condamnée à verser au jeune homme 350 000 dollars en dommages et intérêts. Dans une décision rendue le mois passé, une juge de la Cour supérieure de l'Ontario a réprimandé Jennifer Lee pour s'être conduite de manière ignoble, je cite, à l'égard d'Eric Abramovitz, un musicien d'une vingtaine d'années. Les documents déposés en cour indiquent que Madame Lee et Monsieur Abramovitz étudiaient tous les deux à l'école de musique Schulich de l'université McGill, ici à Montréal, en 2013, lorsqu'ils ont entamé une relation amoureuse. Le jeune homme s'est rapidement installé dans l'appartement de sa copine et cette dernière avait pleinement accès à son ordinateur portable, précisent les documents. Clarinettiste de talent et lauréat de plusieurs prix, Eric Abramovitz a déposé une demande en décembre 2013 pour étudier au prestigieux conservatoire de musique Coburn à Los Angeles, auprès de Yehuda Gilad, un professeur de clarinette jouissant d'une réputation internationale. Monsieur Gilad n'accepte que 2 étudiants en clarinette par année et la candidature de Monsieur Abramovitz a été retenue après un rigoureux processus de sélection et d'audition. En mars 2014, le conservatoire a écrit un courriel à Eric Abramovitz pour l'informer qu'il avait été accepté, une offre assortie d'une bourse d'études de 2 ans. Le principal intéressé n'a toutefois jamais vu le message, selon les documents. Jennifer Lee a en effet intercepté et supprimé le courriel avant de se faire passer pour son petit ami et de décliner l'offre. La jeune femme a poussé la chose encore plus loin, en envoyant un autre courriel, supposément rédigé par Yehuda Gilad, à M. Abramovitz par le biais d'une fausse adresse électronique créée pour l'occasion afin de signifier au jeune homme qu'il n'avait pas été accepté à Coburn. M. Abramovitz est complètement tombé dans le panneau, a écrit le juge David Corbett. Résultat, il a raté l'occasion d'étudier 2 ans avec M. Gilad tout en bénéficiant d'une bourse d'études. 1 an plus tard, alors qu'il n'était plus en relation avec Mme Lee, Eric Abramovitz a joué pour Yehuda Gilad et a commencé à se douter de quelque chose ne tournait pas rond. Lorsqu'il a finalement réalisé ce qui s'était produit, il a intenté une poursuite contre son ancienne amoureuse en août 2016, réclamant des dommages-intérêts pour fraude, atteinte à la vie privée ainsi qu'infliction intentionnelle ou par négligence de souffrance morale. Les agissements de Jennifer Lee ont porté atteinte à sa réputation, l'ont privé d'une occasion unique et ont retardé l'avancement de sa carrière, en plus de lui faire perdre des revenus, a soutenu le jeune homme, qui vit présentement à Nashville, mais se joindra à l'Orchestre symphonique de Toronto plus tard cette année. Madame Lee, qui habite Toronto, n'a jamais répondu à la poursuite ou présenté une défense, poussant le juge Corbett à la tenir responsable par défaut. Le magistrat a déclaré que la motivation de la jeune femme était apparemment de s'assurer que M. Abramovitz demeurerait à Montréal et poursuivrait leur relation. en accordant 300 000 dollars aux plaignants en dommages d'intérêt généraux, de même qu'un autre 50 000 dollars en dommages d'intérêt punitifs et majorés. Le juge Corbett a reproché à Jennifer Lee d'avoir trahi la confiance de son copain et d'avoir commis un acte impensable, immoral. Le magistrat a aussi ordonné à Madame Lee, qui n'a pas répondu aux demandes d'entrevue, de verser 25 000 dollars à Eric Abramovitz pour couvrir ses frais juridiques.
Changeons de sujet. Effervescence dans le marché de la revente des Plex, donc en immobilier. À l'image du marché immobilier dans son ensemble, la demande demeure soutenue pour les duplex, les triplex et les immeubles de 4 logements tant à Montréal qu'ailleurs au Québec. La popularité des Plex ne se dément pas sur le marché de la revente depuis les 12 derniers mois, confirme la Fédération des chambres immobilières du Québec, la FCIQ, dans son analyse de juin 2018. C'est naturellement dans la région métropolitaine de recensement RMR de Montréal que ce type d'immeuble se vend le mieux, le plus rapidement et souvent à l'avantage du vendeur avec un prix moyen de les prix moyens, je ne sais pas trop où ils les ont pris, de 520 986 dollars. À Laval, le prix moyen d'un plex atteint 473 063 dollars, tandis que sur la rive sud, Longueuil, il se situe à 403 762 dollars. À l'opposé, c'est dans la région métropolitaine de Trois-Rivières que le prix moyen est le plus bas à 164 832 dollars. Le courtier Sylvain Girard constate sur le terrain l'engouement des acheteurs pour ce type de propriété. « Je croyais que la légère hausse des taux d'intérêt allait retenir quelque peu l'ardeur des acheteurs », dit le courtier chez Compass Immobilier. Au contraire, c'est toujours aussi intense, en est même essoufflant par moments. Et qui sont les acheteurs? Il y a des investisseurs, relève le courtier actif dans les quartiers centraux de Montréal, mais il y a aussi des acheteurs qui souhaitent y vivre avec leur famille ou encore loger le plus vieux dans un des logements le temps qu'il poursuive ses études universitaires. Dans son analyse de marché, la FCIQ constate que les vendeurs sont avantagés par une certaine rareté de ce type d'immeuble, particulièrement à Montréal. La construction de nouveaux plex est rarissime, voire quasi inexistante dans plusieurs quartiers centraux. Lorsqu'un promoteur met la main sur un terrain bien situé, il est généralement plus rentable d'y construire un immeuble de plus haute densité, souligne-t-on. La Fédération prévoit par ailleurs que le marché de la revente, tant dans le plex que dans l'unifamilial ou la copropriété, fracassera cette année pour la première fois le seuil des 85 000 transactions au Québec. À suivre, nombre de jours requis pour vendre un plex. Donc, sur l'île de Montréal, c'est 73 jours environ, à Laval, 83, sur la rive sud, 85, dans la région métropolitaine de Trois-Rivières, 105 jours, et dans la région métropolitaine de Saguenay, 144 jours.
Allez, je vous emmène dans l'espace, partons vers le ciel. Je vous parle de l'utopie spatiale d'Asgardia, eh bien, qui est en marche. Las des chamailleries politiques sur Terre, Asgardia, autoproclamée première nation de l'espace, a intronisé son président lundi à Vienne, lundi c'était il y a 2 semaines, et promet à ses futurs citoyens de mettre en orbite un état où vivre en paix et en harmonie. La cérémonie d'investiture du chef de la nouvelle nation spatiale a réuni quelque 200 personnes dans l'ancien palais impérial du Hofburg. Drapeau, hymne, constitution, le président Igor Ashurbeyli, un ingénieur informaticien et homme d'affaires russe, n'a rien laissé au hasard pour donner corps à son projet baptisé Asgardia, en référence à une cité de la mythologie nordique. Moteur de cette vaste entreprise lancée il y a 2 ans, M. Ashurbeyli, qui a travaillé dans une entreprise russe de matériel militaire, d'après le site internet d'Asgardia, veut offrir un cadre philosophique, juridique, scientifique et technique pour permettre un accès légal à l'espace et un accès égal à l'espace pour tous et pour tous les peuples de la Terre, selon un communiqué. Selon l'homme d'affaires, quelques 200 000 personnes du monde entier ont déjà postulé en ligne pour devenir citoyens asgardiens. Toute l'histoire de la civilisation sur Terre a prouvé que l'humanité n'est qu'une perpétuelle spirale de guerres sanglantes, de batailles pour un territoire et des ressources, a lancé le chef d'Asgardia dans son discours aux parlementaires de la nation spatiale. En se rassemblant autour d'Asgardia, la part progressiste de l'humanité peut offrir une alternative à la civilisation sur Terre en remplaçant la géopolitique par la politique de l'espace, a-t-il promis. Un ancien député britannique des libéraux-démocrates, Limbic Opik, a été désigné président du Parlement. Asgardia compte prochainement se doter d'un conseil des ministres, d'un parquet général, d'une administration et d'une banque centrale pour sa future crypto-monnaie, selon son président. Le lancement l'an dernier d'un premier satellite asgardien dans l'espace devrait être suivi par la mise en orbite d'autres satellites fournissant des services numériques aux citoyens asgardiens. M. Ashur Bailey reconnaît que l'utopie ne sera pas bon marché. Jusqu'à présent, il a financé le projet sur ses fonds propres et par le biais de donations privées. À l'avenir, les Asgardiens devront payer une taxe de citoyenneté annuelle de 170 dollars canadiens environ, ainsi que des impôts sur le revenu et les entreprises, a-t-il indiqué aux journalistes. Pour ce qui est de l'aspect scientifique, il compte tout simplement sur ses propres connaissances pour arriver à installer des êtres humains sur la Lune d'ici 25 ans.
Certains soirs, tu t'ennuies trop, regarde dans le ciel, tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement. D'abord, on croit en une étoile, c'en est pas une, c'est moi dans un Spoutnik. Si tu penses que c'est trop petit pour un comme moi et mon gabarit, faut dire ce n'est pas mon corps qui voyage. Moi je suis dans mon lit, mais mon esprit lui est dans un Spoutnik. Six milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble. Ce que j'y fais ne regarde personne, mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te le dire ce que j'y cherche. Tout simplement, juste un endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik. Pose là mon satellite, où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures, et qui retourneront là d'où ils viennent, plus fort, plus vrai, à demi invincible. Six milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Tout seul ensemble, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble. Seul ensemble.
Extrait de son album Rêver mieux, paru en 2002, on vient d'entendre Daniel Bélanger et la pièce Dans un Spoutnik.
Alimentation cétogène, manger gras pour maigrir. Dans la région d'un... Excusez-moi. Dans le rayon des régimes à la mode, l'alimentation cétogène remporte certainement la palme cette année. Propulsée par des documentaires comme The Magic Pill, adopté par nombre de célébrités et de sportifs, accompagné d'histoires de perte de poids impressionnantes et ayant même des applications médicales reconnues, ce type d'alimentation faible en glucides et riche en gras soulève autant l'enthousiasme que la controverse. C'est dans un dossier très complet signé par Iris Gagnon-Paradis dans la presse du 3 juillet, un dossier étayé et détaillé dont je vous parle brièvement. On vous parle du pays des cétones. Alors beaucoup d'informations, parfois véridiques, souvent incomplètes, circulent sur l'alimentation cétogène ou dite faible en glucides. On remarque aussi que deux camps s'affrontent, les tenants de l'approche traditionnelle d'une alimentation faible en gras et les nouveaux convertis à ce « mode de vie » entre guillemets. Le phénomène décortiqué en 6 questions. Alimentation cétogène. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver et en été ? Comment est-ce possible de maigrir en mangeant du gras ? Mais le cerveau n'a-t-il pas besoin de glucides pour fonctionner ? Et qu'en est-il des calories ? Y a-t-il des effets secondaires ou des contre-indications ? Et enfin, que dit la science ? Alors, dans le cas du diabète de type 2, la position des professionnels de la santé du Collège des médecins du Québec d'une part, de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec d'autre part. La diète cétogène contre l'épilepsie. Même si la diète cétogène fait beaucoup jaser actuellement, c'est loin d'être nouveau. Dans quelle proportion la diète cétogène est-elle efficace pour traiter l'épilepsie ? Pourquoi la diète cétogène réussit-elle parfois là où la médication échoue ? Et pour terminer ce dossier, une journée céto, comment ça fonctionne ? Ça, c'est dans la presse, paru dans le 3 juillet. Dans la presse le 3 juillet, dans le dossier très complet signé Iris Gagnon-Paradis.
Déclaré mort par son épouse, finalement ressuscité par la justice. Un Roumain qui avait échoué à convaincre les juges qu'il était bien vivant a enfin obtenu gain de cause. 2 ans après avoir été déclaré mort par son épouse, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires. Constantin Reliou, 63 ans, avait été débouté en mars par une cour de Vaslui, qui avait refusé d'annuler son certificat de décès, bien qu'il se soit présenté en personne devant les juges. Le tribunal n'avait pas détaillé les raisons du rejet de la requête, mais selon les médias roumains, elle avait été formulée hors délai. Refusant le statut de mort-vivant, il a formulé une nouvelle requête qui a finalement été acceptée par le tribunal de Barlad, sa ville natale. Ce cuisinier sexagénaire devra néanmoins attendre encore 1 mois avant de pouvoir reprendre sa vie en main. Toute personne ayant des doutes sur la véracité de son existence peut faire appel de la décision du tribunal dans un délai de 30 jours. Parti travailler en Turquie au début des années 90, M. Reliou avait découvert, en rentrant en Roumanie en janvier, qu'il avait été déclaré mort par sa famille en l'absence de nouvelles de sa part. Son retour de parmi les morts a été particulièrement difficile pour le sexagénaire. Il survit grâce au soutien des voisins car, faute de preuves officielles qu'il est vivant, il n'a pu être employé légalement ni bénéficier de prestations sociales.
Un bain de nature aux îles de Boucherville. À la recherche d'idées d'activités estivales peu coûteuses à Montréal ou dans les environs, chaque semaine, il y a une suggestion dans la presse. Au milieu du fleuve Saint-Laurent, à quelques minutes de Montréal seulement, le parc des îles de Boucherville est une véritable oasis de paix qui accueille les amateurs de plein air comme hiver. Le parc comprend 21 km de sentiers en nature qui permettent aux campeurs, cyclistes et marcheurs de découvrir tous les attraits des lieux. Des vélos ordinaires, elliptique et tandem sont offerts en location. Il est également possible de louer un grand nombre d'embarcations, chaloupes, kayaks, canots, rabaska, surf, à pagaie, pédalo, pour profiter du sentier nautique balisé d'une longueur de 8 km. Autant pour les activités nautiques que terrestres, il est toujours possible d'apporter votre propre équipement. Vous n'avez alors qu'à payer le tarif d'accès au parc. Vous y découvrirez des marais grouillants de vie avec une végétation et une faune diversifiées. Le centre de découverte, quant à lui, vous informera sur l'histoire de ce lieu, de la dernière glaciation au moment de la création du parc, y compris le passage des Iroquois qui ont fréquenté l'endroit il y a plus de 2000 ans. Pour casser la croûte, 4 haltes de pique-nique ont été aménagées le long du parcours. Un casse-croûte, un bar laitier, des toilettes et un centre d'accueil font aussi partie des services offerts. L'accès au parc national coûte $8,60 par jour pour les adultes et est gratuit pour les enfants de 17 ans et moins. Un laissez-passer annuel est aussi offert. La location d'équipement est offerte jusqu'en octobre.
Et pour une activité un peu plus dispendieuse, mais amusante, surtout pour les enfants, ça se passe au Japon. Le Japon ose le TGV Hello Kitty.
Ah oui.
Un train à grande vitesse nippon rose bonbon Hello Kitty, orné du personnage devenu culte à travers le monde, a été dévoilé mardi, avant de se lancer samedi sur les lignes ferroviaires du Japon. Ce train spécial circulera à compter de samedi et pour 3 mois sur le tronçon Osaka-Fukuoka, dans la partie ouest du Japon. Habillé en rose et blanc, ce train au long nez aérodynamique de la famille des Shinkansen accueillera les passagers dans des fauteuils violets et roses et avec entre autres des couvres repose-têtes ornés d'une Kitty. Une reproduction de grande taille de ce personnage devenu culte, imaginé au début des années 70 par une créatrice de la firme Sanrio, attend les passagers pour une séance photo dans un espace dédié tout de rose décoré. Le train comprend aussi, vous vous en doutez, une voiture magasin remplie de produits dérivés Hello Kitty.
J'en ai un. Alors, les aéroports parisiens passent à la reconnaissance faciale. Agence France-Presse Orly. Des sas équipés d'un système de reconnaissance faciale sont désormais déployés dans les aéroports parisiens afin de rendre plus fluides les contrôles aux frontières, a annoncé vendredi le ministère des Transports Elisabeth Borne en visite à Orly à l'occasion des départs en vacances. Mais un autre petit brève nous dit que Orly, il va falloir faire attention aux bouchons. Les voyageurs de passage à Orly, à Paris, devront se méfier des bouchons de circulation. En effet, l'aéroport de Paris a annoncé que les transferts entre Paris-Orly et la ville Lumière seront perturbés par plusieurs travaux d'infrastructure entre le 25 juillet et le 30 septembre. Donc pour s'en tirer, mieux vaut privilégier le réseau ferroviaire. Par ailleurs, aussi dramatique soit-elle, les tueries de masse des dernières années aux États-Unis ne semblent pas avoir beaucoup d'impact sur les touristes à moyen et à long terme. Et c'est la conclusion d'un sondage mené au Japon, en Allemagne et au Royaume-Uni par l'agence d'information Skift, spécialisée en tourisme, dans lequel une minorité de répondants affirme avoir annulé un voyage prévu aux États-Unis.
Très bien, ce qui conclut cette émission. Merci Jean-Charles Algan. Merci également à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci Louis.
9h pour les voix de service. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.